Nous allons découvrir aujourd'hui la vie de Saint Dominique Savio, l'élève de Saint Jean Bosco. Apprenez à son exemple à vivre en parfaite droiture et pureté de cœur, à aimer Dieu de toute votre âme et à vous soucier du salut du prochain. Le pape Pie XI a appelé Dominique Savio petit en taille mais géant de l'âme. Le petit Dominique était la joie de sa famille. Le soir, quand le père revenait à la maison, brisé sous le poids des lourds fardeaux de la journée, lorsqu'il voyait son petit Dominique qui l'attendait devant la porte, il se sentait plein de courage pour affronter la lutte pour le pain de chaque jour. Famille chrétienne, famille unie par les liens sacrés du mariage. Les veillées familiales étaient pleines de paix et de joie. Maman m'a dit de prier Jésus pour qu'il ne te laisse plus tomber malade, papa. Avant les repas, n'oubliez jamais la prière. Bénissez, Seigneur, le repas que nous allons prendre pour réparer nos forces afin de mieux vous servir. Et père et mère Savio, rendez grâce à Dieu qui leur avait donné cet enfant merveilleux, Dominique Savio, sourire de leur existence. Or l'enfant grandissait en âge et en sainteté, comme une fleur des champs sous les regards aimants de Dieu. Il apprenait à aimer son Père du ciel toujours plus. Des caprices, père et mère n'en avaient pas souvenir. Ah si, une fois, il ne voulait pas manger avec des invités à table. Les parents se demandent ce qui lui arrive. Les convives partis, ils interrogent Dominique qui leur dit: Pardonnez-moi, père, mais le monsieur n'a pas fait son signe de croix avant de manger et je ne me sens pas d'appétit avec quelqu'un qui mange comme une bête, sans penser à Dieu. Le curé de Murialdo connaissait bien le petit enfant des Savio. Je le voyais chaque dimanche suivre sa messe pieusement et écouter le sermon avec attention. Je le voyais venir à l'église tous les matins. Il avait à peine 5 ans. Il répondait au prêtre à l'autel dans un latin cristallin. Il transportait le missel, il apportait les burettes, il sonnait la clochette. Quand je serai grand, moi aussi, je pourrais appeler Jésus sur l'autel, car son grand désir, c'était de devenir prêtre déjà. Mais un grand désir aussi le pressait, c'était de recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Or, à cette époque, on ne communiait pas avant 11 ans ou 12 ans, et lui n'en avait que 7. Tant pis, le curé de Murialdo se décida à envoyer Dominique à la Sainte Communion plus tôt que prévu à cause de sa précocité. Pensez la joie du petit Dominique. Il court vite l'annoncer aux parents. Il pleure même, car dans son petit cœur pur, il se désole des fautes qu'il a pu commettre dans le passé. Et il se sent déjà indigne d'un si grand sacrement. En 1849, dimanche de Pâques, les cloches sonnent à pleine volée. C'est le grand jour. C'est le jour de la première communion. Dominique fixe des yeux l'hostie immaculée. Rien ne peut le distraire. Il n'appartient déjà plus à cette terre. Son cœur est ailleurs. Il trace ce jour-là sur une feuille de résolution. En ce jour béni de ma première communion, je prends la ferme résolution, avec le secours de la sainte grâce de Dieu, de me confesser souvent de communier chaque fois que mon confesseur me le permettra, de bien sanctifier les dimanches et jours de fête. Mes amis seront Jésus et Marie, et il conclut, la mort plutôt que le péché. Maintenant, la vie a repris son cours. Il va à l'école de Murialdo. Il doit faire 20 km chaque jour. Comme on lui demande s'il n'a pas peur de partir ainsi tout seul, il répond « Mais je ne suis pas seul. J'ai mon ange gardien avec moi. » C'est sur le chemin de l'école qu'il fait sa première rencontre avec le péché. Le péché laid. Ses petits compagnons l'invitent à se baigner dans la rivière. Dominique, confiant et sans malice, les suit. Mais il se rend vite compte que leur jeu n'est pas innocent. Le soir, il raconte tout à sa mère, qui lui dit de ne plus retourner, car il court grand danger de perdre son âme. Un jour que le maître d'école tarde à venir, des élèves en profitent pour aller s'amuser dehors. Ils ont l'idée de remplir le vieux poêle de la salle de classe avec de la neige. Or, ces garnements-là avaient déjà été repérés par le maître d'école, car ils avaient fait des bêtises, déjà, et ils risquaient rien de moins que leur envoi. Donc, Ugliero arrive. Il demande qui a fait cela. Les garnements désignent Dominique Savio. Savio, dit le maître. Je ne m'en serais jamais douté. Et bien que ce soit la dernière fois, va au coin, à genoux. La prochaine fois, tu seras mis à la porte. Le lendemain, on découvrit le vrai coupable. Le père Cugliero, bouleversé, demande à Dominique Savio pourquoi il s'est laissé accuser à tort. Vous voyez, père, si je vous l'avais dit, vous les auriez renvoyés de l'école. Alors que moi, j'étais sûr pour cette fois que vous m'épargnerez ce châtiment. Et puis je pensais que même Jésus fut condamné, quoique innocent. Alors pourquoi me plaindrais-je? Donc Ugliero pense que Dieu a certainement des vues sur cet enfant. Il prend le chemin de Turin. Là vit un saint prêtre qui tient une école, Don Bosco. Don Bosco, je voudrais que vous acceptiez chez vous un de mes élèves, Dominique Savio. Il veut étudier, mais ses parents sont pauvres. Prenez-le chez vous. Je vous assure que personne ne surpasse en intelligence et en vertu. Bien, répond Don Bosco. Amenez-le-moi. Entre ces deux géants de sainteté, la rencontre restera célèbre. Elle aura lieu le 2 octobre 1854. Don Bosco lui-même racontera la scène dans ses mémoires. C'était un grand matin. Je vis un jeune enfant avec son père qui s'approchait pour me parler. Il avait l'air joyeux. Je lui demandai comment il s'appelait. Je suis Dominique Savio, je viens de Mondionio. Je le pris à part et c'est là que je le découvris vraiment. C'était un enfant béni du Seigneur et je restai stupéfait. Je lui dis qu'il me paraissait fait d'une bonne étoffe et que cette étoffe servirait bien à faire un bel habit pour notre Seigneur. Dominique me répondit, « Si je suis fait d'une bonne étoffe, c'est vous qui êtes le tailleur. Prenez-moi avec vous et vous ferez ce bel habit. » Don Bosco l'accepta dans son collège. Dominique Savio arrive à Turin le 29 octobre 1854 avec quelques vêtements et quelques livres. Ici, dira-t-il à Don Bosco, j'ai tout de suite compris que c'était l'âme qui comptait. Donnez-moi des armes et prenez tout le reste. Il fait connaissance de maman Marguerite, la mère de Don Bosco, une sainte femme qui reste longtemps éveillée la nuit pour repriser les habits des élèves les plus pauvres du collège. Elle fait aussi la cuisine, c'est la maman de tout le monde.
Fin novembre, on prépare la neuvaine à l'Immaculée Conception, que l'on fêtera le 8 décembre. On est cette année-là, en l'année 1854, année où le pape Pie IX définira le dogme de l'Immaculée Conception. Quel jour de ferveur! Dominique Savio fera une confession générale de toute sa courte vie. Il fait à Don Bosco part de sa résolution de communier désormais tous les matins, de lutter énergiquement contre les péchés mortels et de prier beaucoup la Vierge Marie. Le 8 décembre 1854, en la fête de l'Immaculée Conception, Saint Dominique Savio se consacre à Notre-Dame par une prière qu'il a composée. Marie, je vous donne mon cœur. Faites qu'il soit toujours vôtre. Jésus et Marie, par pitié, faites-moi plutôt mourir que commettre un seul péché mortel. Le soir de ce jour magnifique, la ville de Turin est toute illuminée. Le collège de Dominique était même fréquenté par des comtes et par des marquis. Ainsi, le fils des pauvres Savio s'asseyait à côté de ceux qui venaient chaque matin dans un splendide carrosse. Ce qui n'empêche pas le professeur Bonzanine de faire l'éloge du petit Dominique Savio en pleine classe et de le donner en exemple. Le comte de San Rufino avouera « Chaque fois que je tournais les yeux vers Dominique en classe, je me sentais poussé à écouter plus volontiers les explications du professeur. » Un jour, des camarades l'engagent à regarder un spectacle de saltimbanque plutôt que d'aller à l'école. Dominique répond « Ma plus grande joie est l'accomplissement du devoir. Et si vous êtes mes amis, vous devez plutôt m'aider à l'accomplir. » Un jour, ses amis se font si insistants que Dominique hésite. Mais, soudain, il prend la résolution. Écoutez, les amis, j'ai mal fait en vous écoutant. Je retourne au collège. Faites-moi le plaisir, dorénavant, de ne plus m'inviter à faire de telles choses. Un jour, deux compagnons se disputent. Ils veulent régler la question à coups de pierre. Ils se dirigent vers un lieu retiré. Dominique les suit. Arrivé dans le lieu de la bagarre, il sort un crucifix. Il s'écrie « Que chacun de vous regarde ce crucifix. Maintenant, dites, Jésus-Christ, vous êtes mort en pardonnant à vos bourreaux, mais moi qui suis un pécheur, je veux vous offenser par cette vengeance. » Les yeux se sont baissés et les pierres sont tombées des mains. Dominique Savio continue « Pour le salut de votre âme qui a coûté le sang précieux de Jésus, vous n'êtes donc pas capable de vous pardonner une insulte lancée dans un moment de colère. » Nos deux compagnons, honteux, se sont réconciliés. Des mois sont passés. Un jour, Dominique entend Don Bosco qui prêche. Résumons ce que nous venons de dire. Premièrement, c'est la volonté de Dieu que je sois un saint. Deuxièmement, c'est facile de devenir un saint. Troisièmement, une grande joie attend les saints dans le ciel. Et Dominique pense, moi aussi je dois devenir un saint. Il a perdu son sourire. Il ne sait plus comment faire pour devenir un saint. Écoute, lui dit un jour Don Bosco, il y a un moyen simple et facile. Sois toujours joyeux. Fais bien tes devoirs de piété et d'études pour l'amour de Dieu et efforce-toi de conquérir l'âme de tes petits compagnons. Un jour, les enfants du collège sont abordés par un pasteur protestant qui leur dit « Ce prêtre, Don Bosco, vous raconte des histoires. Il n'y a pas d'enfer. Vous êtes jeune, ne pensez pas à tout ça. » Dominique interrompt le pasteur. « Les amis, allons-nous-en. Cet homme nous ment. Retournons jouer. » Le pasteur est en rage pendant que Don Bosco, qui assistait à la scène de loin, exulte. C'est bien, Dominique. Tu cherches toujours à amener à Dieu l'âme de tes compagnons. Saint Dominique Savio exhortait souvent ses petits compagnons à la confession. Il connaissait l'importance capitale du sacrement de pénitence dans la lutte contre le péché. Les rues de Turin, ces années 1855, n'étaient pas motorisées, mais des longues files de charrettes circulaient et les blasphèmes des charretiers allaient bon train. Dominique voudrait bien reprendre nos charretiers, mais la crainte de les enrager encore plus et de déclencher d'autres odieux blasphèmes le retiennent. Alors il contrecarre chaque fois en murmurant « Loué soit Jésus-Christ ». Un jour, néanmoins, n'en pouvant plus, il finit par s'adresser gentiment au charretier stupéfait. « Pardon, pouvez-vous me faire une faveur, celle de ne plus blasphémer ?» Il s'entendait à d'autres jurons, mais à sa grande surprise, il vit le charretier lui sourire et lui demander pardon. Il va chercher les enfants les plus sauvages et ignorants pour les entraîner à Dieu. Un jour du mois de mai, mois de Marie, il vend tous les livres qu'il a reçu comme prix au collège afin de faire un joli hôtel à Notre-Dame. Aux vacances de 1855, Dominique retourne au vert pâturage de Mondogne. Là, il se souvient des paroles de Don Bosco avant le départ en vacances. Vos vacances ne doivent pas être les vendanges du diable, mais les récoltes du Seigneur. Dominique profite de ses vacances pour conduire les enfants du village à l'église. Septembre arrive, c'est la rentrée. Don Bosco voit arriver son Dominique, mais cela n'a pas l'air d'aller bien fort. Qu'y a-t-il, Dominique? Il y a que je veux devenir un saint, mais je n'y arrive pas. Il faut que je fasse très vite, car je sens qu'il me reste peu de temps. Une épidémie de choléra se déclare. Dominique vole au secours des malades. Il va de ci, de là. Il n'a pas peur. Don Bosco lui attache au cou une médaille de la Vierge, avec elle il ne craint plus rien. Un jour, il arrive dans une maison. « Monsieur, il y a un malade du choléra chez vous. » L'homme a beau nier. Dominique entre et il découvre dans un coin une pauvre vieille qui allait mourir désespérée. Vite, on court chercher le prêtre, et la vieille dame meurt en paix, avec l'espérance de voir Dieu. Maintenant, le choléra est maîtrisé, la vie redevient calme, mais le petit cerveau de Dominique boue. Il veut en faire encore plus. Il propose à Don Bosco la fondation de la Compagnie de Marie Immaculée, qui regroupera tous les jeunes désireux de seconder les prêtres dans leur apostolat parmi les jeunes. C'est ainsi que le 8 juin 1856, le petit bataillon est prêt pour l'assaut. Il se réunit autour de l'autel de la Vierge et Dominique, d'une voix tremblante d'émotion, en récite le règlement qui comprend 21 articles, se réduisant à trois mots: pureté, piété, apostolat. La cour du collège n'est plus ce qu'elle était. Quelque chose a changé. Qu'as-tu, Pierre? Tu n'es pas bien? Tu as l'air triste. Oui, hier, un compagnon m'a fait un croc à jambe. Je lui ai renvoyé un bon coup de poing. Don Bosco nous a vus. Il l'a mal pris. Il n'est pas content de moi. Cela peut s'arranger. Va chercher ton compagnon et demande-lui pardon. La vigilance de Dominique s'exerce aussi sur les mauvaises lectures qui risquent de corrompre l'âme de ses compagnons. Quel est donc le secret de votre sourire et de votre joie toujours limpide, Dominique? Et l'enfant répond: la confession toutes les semaines et la communion le plus souvent possible. Un jour, le Saint-Sacrement venant à passer, porté par un prêtre, Dominique se met à genoux dans la boue. Ses compagnons se moquent de lui. Quand il se lève, il est tout taché. Alors, à ses camarades qui se moquent, il dit: le Saint-Sacrement passé, et quand passe Jésus, non seulement je me jetterai dans la boue, mais dans le feu. Une autre fois, en présence du Saint-Sacrement, il voit un soldat qui ne s'agenouille pas. Il lui propose son mouchoir. Le soldat, confus, mettra le genou à terre. Mais Dominique est comme nous. Il n'est pas un pur esprit, il connaît nos tentations. Désirant que son corps soit un temple saint où habite la Sainte Trinité, il décide de le vaincre par la mortification. Don Bosco le reprend un jour parce qu'il le surprend à dormir avec une seule couverture. Il lui demande de ne jamais faire de pénitence sans sa permission, parce qu'il risque une pneumonie. Vois-tu, Dominique, la plus belle des pénitences est de faire les choses ordinaires, extraordinairement bien. Dans la rue, par pénitence, il ne portait pas les yeux sur les spectacles du monde, voulant les conserver purs pour regarder le visage de la Vierge Marie au ciel. Comment, Dominique, peux-tu manger ce pain moisi? Mais pourquoi faire tant de pénitence? Lui demande un jour Paul, son compagnon. Ce pain est un grand don de Dieu, répond Dominique. Quant aux pénitences, chacun fait ce qu'il peut. Si on ne peut faire de grandes choses pour le Seigneur, qu'on en fasse des petites. Un soir, Don Bosco rassemble les petits chanteurs de la chorale. Dominique est là. Il faut se rendre au sanctuaire de Notre-Dame de la Consolata pour chanter l'office du soir. Dominique, ce soir-là, eut même un chant à interpréter seul. Ce fut une apothéose. Mais Don Bosco, la cérémonie terminée, découvre son brave Dominique en pleurs. Il lui demande ce qui se passe. Voyez-vous, Don Bosco, quand je chantais à l'église, je réalisais que je chantais bien et je m'enorgueillis un peu. Puis des personnes sont venues me féliciter et ainsi j'ai perdu tout mérite. Je voudrais chanter pour Dieu seul. Un jour, Dominique rencontre dans la cour du collège un nouveau élève, Camille, qui regarde les autres jouer. Bonjour, comment t'appelles-tu? Tu es nouveau. Tu dois avoir la nostalgie de la maison, je sais ce que c'est. Mais tu verras, cela passera. Ne sois pas triste. Tu sais, ici, nous sommes tous joyeux. Camille et Dominique deviennent de grands amis. Mais hélas, cela fut de courte durée. Une maladie de cœur emporte Camille au bout de 2 mois de collège. Adieu, Camille. Je suis sûr que tu es au ciel. Prépare-moi-y une place. Mais l'ami le plus cher à Dominique s'appelait Jean Massaglia. Il était presque du même village et brûlé du même désir, devenir prêtre un jour. Le jour le plus beau pour moi, Dominique, sera celui où je serai prêtre. Peut-être, répond Dominique, verrai-je un jour aussi beau arriver pour moi. Mais l'hiver suivant, Massaglia fut saisi d'une grave maladie. Lui aussi s'envola au paradis. Et Dominique pensa, Camille, Massaglia, maintenant je sens que cela va être mon tour. J'irai bientôt vous rejoindre, mes chers compagnons, dans l'immense bonheur du ciel. Les derniers temps de Dominique brillèrent de lumière surnaturelle. Un jour, il fit à pied le chemin de Castelnuovo à Mondonio, son pays. Quand son père le voit arriver, il s'étonne. « Ce n'est pas possible, Dominique. Tu n'as pas fait à pied un aussi long parcours. »« Je n'étais pas seul, père. Une dame m'accompagnait. Et puis, quand je suis arrivé, elle a disparu. » Un jour, la maman de Dominique tombe malade. Elle attendait un enfant. Dominique apparaît à son chevet, l'embrasse, lui met autour du cou le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, puis disparaît. Depuis cet instant, la maman cesse de souffrir, et quand la joie d'une nouvelle naissance vient égayer la famille, maman Savio se souvient du scapulaire que son fils lui a mis. Quelquefois, à travers les murs du collège devenu opaque, Dominique pressent une âme à sauver dans la ville. Don Bosco, venez avec moi. Je crois qu'une âme nous appelle. Et on voit à travers les rues de la ville le bon Saint-Prêtre et son élève animés du même zèle pour le salut des âmes, guidés miraculeusement vers un moribond qui, au moment de mourir, demande pardon pour ses crimes. Un jour, ses petits camarades du collège le cherchent partout. Il est à la chapelle en extase, perdu en Dieu, qui murmure « Jésus, je vous aime et je veux vous aimer jusqu'à la mort. Faites-moi mourir plutôt que de commettre un seul péché. » Don Bosco arrive. « Dominique, mais que fais-tu ici? On a fini de manger. » « Oh, pardon, Don Bosco, je croyais que la messe n'était pas finie. » Et puis je voyais de telles choses que les heures passent en un moment. Un jour après la communion, Dominique a une vision. Il voit le pape de l'époque, Pie IX, un flambeau à la main, au milieu d'une foule immense. Et ce flambeau avançant, les nuées qui couvraient la foule se dissipaient. Il entendit alors une voix qui disait « Ce flambeau, c'est la religion catholique qui illuminera un jour l'Angleterre. » Mais la santé du saint déclinait. Don Bosco interroge le docteur. « Docteur, y a-t-il un remède à son mal ?»« Mon père, cet enfant est fragile. Il est doué d'une intelligence très vive et d'une grande sensibilité. Tout cela ronge sa force vitale. Le seul remède, c'est de le laisser s'envoler au paradis. » Don Bosco, brisé de douleur, doit conseiller à Dominique de retourner chez les siens afin de se refaire une santé au contact de l'air pur de la campagne. Dominique supplie. « Mais non, Don Bosco, je suis bien ici. Laissez-moi au collège. » Son père vient le chercher. Ce sont les derniers adieux de deux grands saints. ils ne se verront qu'au ciel. J'aurais aimé finir mes jours ici, Don Bosco. Je n'aurais été qu'une charge pour peu de temps. Ne dites pas cela, mon enfant, répond Don Bosco. Tu vas te rétablir et revenir parmi nous. Non, Don Bosco, je m'en vais pour ne plus jamais revenir. Mais du ciel, pourrais-je revoir mes camarades? Pourrais-je revoir le collège? Pourrais-je venir vous revoir? Dites Don Bosco. Don Bosco, la voix émue, répond qu'il viendra si le Seigneur le permet, puis ils se disent au revoir. Chez lui, la maladie s'aggrave. Dominique dit à son père, « Allez chercher le prêtre. Je veux me confesser et recevoir la Sainte Communion. » Il comprenait que cela allait être la dernière communion de sa vie. Le soir, il demanda l'extrême-onction. On était le 9 mars 1857. Puis il dit, « Père, lisez-moi les prières de la bonne mort. » Le père de Dominique prit son vieux missel, et les yeux pleins de larmes, la voix secouée de sanglots, il se mit à lire les prières des agonisants. Miséricordieux Jésus, car mon âme comparaîtra devant vous et verra pour la première fois la splendeur de votre majesté, ne la rejetez pas de votre présence, mais daignez l'accueillir dans l'embrasement amoureux de votre miséricorde, afin qu'elle chante éternellement vos louanges. » Puis il entendit son fils Dominique qui disait, « Ah, que c'est beau, ce que je vois !» Ce furent ses dernières paroles. Et Dominique s'en retourna vers son Dieu. Quelque temps après, entouré d'une grande clarté, il apparut à son père pour lui dire qu'il ne devait plus pleurer car il était au ciel. Et Don Bosco le vit aussi, un an après, dans un rêve merveilleux qu'il raconta à ses élèves. Dominique était beau comme un ange. Il était à la tête d'une multitude de jeunes gens. Un grand habit blanc lui tombait jusqu'aux pieds. Puis il me montra un magnifique bouquet de fleurs en me disant, « Présentez-les à nos élèves pour qu'ils puissent en offrir au Seigneur, que tous en aient et que personne n'en soit privé. » Et Don Bosco d'ajouter, « Ah, si j'étais pape, je n'aurais aucune difficulté à déclarer saint notre Dominique Savio. » Et c'est ce qui se passa le 12 juin 1954. Le pape Pie XII proclama saint Dominique Savio. Depuis ce jour, son triomphe ne fit que croître. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, du ciel, il doit sourire à voir tant de jeunes gens le prier, avec dans les mains un cahier, sur lequel eux aussi auront marqué leur résolution pour leur jour de leur première communion ou bien de leur communion solennelle. Me confesser souvent, communier chaque fois que mon confesseur me le permettra, bien sanctifier les dimanches et jours de fête, mes amis seront Jésus et Marie, la mort plutôt que le péché.
Nous allons voir maintenant la vie admirable de Michel Magon, un garçon de Don Bosco. Suivez bien ses exemples et vous parviendrez, comme lui, à la plus grande perfection. D'automne, dans la petite ville de Carmagnola, Don Bosco attend le train pour Turin. Il se promène patiemment devant la gare, en égrenant son chapelet, lorsque son attention est attirée par des cris et des clameurs. Attention ! Prends-le ! Derrière toi ! Attrape, Jean ! Cours vite ! Or, au milieu de ces cris, une voix claire domine toutes les autres. C'est comme la voix d'un général dont les ordres sont sans réplique et à qui tous obéissent. Don Bosco désire vivement connaître celui qui dirige le jeu avec une telle présence d'esprit au milieu d'un pareil charivari. Deux enjambées, il s'élance au milieu d'eux. Tous s'enfuient épouvantés, sauf un seul qui s'avance, les mains sur les hanches, la mine autoritaire. Qui êtes-vous pour vous mêler de nos jeux ? Je suis votre ami. Je veux, si cela ne vous dérange pas, jouer un peu avec vous. Mais je ne vous connais pas. Je te le répète, je suis ton ami. Et toi, qui es-tu ?
Moi ? Je suis Michel Magon, le général des enfants de Carmagnola.
Don Bosco fixe d'un regard intense ce garçon blond aux cheveux en désordre. Quelques mots lui suffisent pour découvrir une situation désespérée. 13 ans, laissé à l'abandon dans les rues. Est-ce que tu as pris un métier ?
Oui. Celui de feignant.
As-tu encore ton père ?
Non, mon père est mort.
Et ta mère ?
Elle travaille pour me nourrir avec mes frères. Mais nous la faisons continuellement enrager.
Cette franchise d'expression, sa façon claire et intelligente de répondre, plaisent à Don Bosco. Il devine le grand péril que court ce garçon, tant qu'il restera livré à lui-même. Mon cher Michel, veux-tu quitter cette vie de gamin pour travailler ou étudier ?
Oui, bien sûr que je le veux. Cette vie de damné ne me dit plus rien. Plusieurs copains sont déjà en prison. J'ai peur de les rejoindre. Mais comment faire ? Ma mère est pauvre. Qui va m'aider ?
Ce soir, prie de tout ton cœur notre Père des cieux. Aie confiance. Il veille sur toi. À ce moment retentit la cloche qui indique l'arrivée du train. Don Bosco doit partir sans tarder. Tiens, prends cette médaille de la Vierge et demain va voir ton curé, Don Arriccio. Dis-lui que le prêtre qui te l'a donné désire des renseignements sur toi.
Au revoir, mon petit Michel. Quel est votre nom ? D'où êtes-vous ? Est-ce que Don Arriccio vous connaît ?
Et pendant que le brave Magon continue ses questions, Don Bosco le quitte pour monter dans le train en direction de Turin. Oubliant le jeu et ses camarades, Michel Magon court d'une seule traite à la maison.
Arrivé chez lui, il raconte tout à sa mère. « Maman, j'ai une nouvelle à t'annoncer. J'ai rencontré un prêtre. Il a beaucoup d'enfants qui jouent dans une cour immense. Et ils apprennent beaucoup de choses. Il m'a dit d'aller voir monsieur le curé demain. » Mais le désir de connaître ce prêtre mystérieux est trop grand. Le soir même, le jeune Magon va chez Don Riccio et lui explique avec enthousiasme tout ce qui est arrivé. Le brave curé comprend tout. Il écrit aussitôt à Don Bosco. Sa mère ne pouvant le surveiller, il passe son temps dans la rue avec les garnements. Magon a une intelligence peu ordinaire, mais il se domine difficilement. Il a été renvoyé plusieurs fois de l'école à cause de son caractère inconstant. Mais je crois qu'il a bon fond et bonne mœurs. Il est digne de pitié. Se fondant sur ces renseignements, Don Bosco décide d'admettre Michel parmi les garçons de sa maison. Dès qu'il reçoit la bonne nouvelle, Magon brûle d'impatience de venir à Turin. Quelques jours après, un baluchon sous le bras, il monte pour la première fois dans le train. La gorge serrée, il fait ses adieux à sa mère. Mais dans son cœur, il rêve déjà de devenir maître des trésors de la ville. Arrivé au terme du voyage, Michel court à la rencontre de Don Bosco. Me voici. Je suis Michel Magon, que vous avez rencontré à Carmagnola. Je viens d'arriver en chemin de fer. Je sais tout, mon garçon. Es-tu venu avec la bonne volonté? Oui, soyez tranquille. Je ne vous ferai pas de peine. Dans le passé, je me suis mal conduit. Je ne veux plus que ça recommence. J'ai déjà deux camarades en prison. Allons, courage. Maintenant, va jouer, et après la récréation, viens me voir. Cinq minutes à peine se sont écoulées, et Michel Magon est déjà le roi de la cour. Il a compris au vol et les règles du jeu. Il s'est frayé un passage à coups de coude dans la mêlée. Il s'est même querellé. Et maintenant, il court, il saute avec le ballon, traversant la cour de part en part, et toute la ribambelle le suit. La récréation finie, Michel va trouver Don Bosco dans son bureau. Alors Michel, tu t'es bien amusé?
Oui, énormément.
Comment va ta maman?
Elle travaille toujours pour nous faire vivre, moi et mes petits frères. Je l'ai tant désespéré.
Mais maintenant, tu veux devenir un brave garçon, non? Alors dis-moi, préfères-tu étudier ou bien apprendre un métier?
Je préférerais étudier. Et quand tu auras terminé tes classes, que veux-tu faire plus tard? Si un voyou?
En disant ces mots, Michel hésite et baisse la tête. Don Bosco se lève et le regarde droit dans les yeux. Allons, continue, Michel. Qu'est-ce que tu veux dire, si un voyou?
Si un voyou pouvait s'améliorer assez pour devenir prêtre, je me ferais volontiers prêtre comme vous.
Eh bien, nous allons voir ce dont un voyou sera capable.
Je te ferai étudier, mais pour ce qui est de devenir prêtre, cela ne dépend pas de moi, mais de Dieu. Je verrai à tes progrès, à ta conduite, l'épreuve de ta vocation. Les premiers jours, Michel n'a de goût que pour la récréation. Courir, chanter, crier, sauter, faire du tapage, voilà ce qui convient à son tempérament fougueux et plein de vie. Rapide comme un boulet de canon, il vole dans les quatre coins de la cour. Il met tout en mouvement. Les jeux d'adresse font ses délices, surtout le jeu de barre, son jeu préféré, qui le rend vite célèbre. La joie des divertissements se mêlant aux travaux scolaires, Michel trouve bien doux son nouveau genre de vie. Mais voici qu'un jour, sa fièvre du jeu commence à baisser. Il ne se mêle plus aux autres que si on l'invite avec insistance. Michel Magon, le roi de la récréation, devient triste et solitaire. Il reste pensif dans son coin, plein de mélancolie, à regarder jouer ses camarades heureux. Parfois même, il lui arrive de pleurer en cachette. Un bon camarade saisit l'occasion pour lui parler. Mon cher Michel, depuis quelque temps, je te trouve dans la peine. Tu n'es pas bien ? Si, côté santé, je me porte à merveille. Alors, d'où vient cette mélancolie ? C'est facile à comprendre. Mes camarades sont heureux, ils prient, ils se confessent, ils communient. Chaque jour, ils deviennent meilleurs, tandis que moi, je suis un vaurien. Je ne puis faire comme eux. Et cela me donne beaucoup de remords et d'inquiétude. Tu es un vrai gosse. Qui t'empêche de suivre leur exemple ? Si tu as des remords sur la conscience, tu peux les supprimer. Les supprimer ? Les supprimer ? C'est vite dit. Mais si tu étais à ma place, et, baissant la tête et d'émotion et de rage, Magon s'enfuit à la sacristie. Son ami le suit, le retrouve en pleurs dans l'église. Il essaye de le consoler. Michel, pourquoi t'enfuir ? Dis-moi ton chagrin. Je veux t'aider, tu le sais bien. Tu as raison. Je suis dans un fameux pétrin. Quel que soit ton pétrin, tu peux toujours t'en tirer. Mais comment pourrais-je vivre en paix ? J'ai l'impression d'avoir 1000 diables au corps. Ne t'affole pas. Va trouver le confesseur et ouvre-lui ta conscience. Il te donnera tous les conseils nécessaires. Quand nous avons des ennuis, nous faisons toujours comme cela. C'est pourquoi nous sommes toujours joyeux. À ces mots, Magon se met à pleurer à chaudes larmes. Les jours passent, la tristesse de Michel ne le fait qu'augmenter. Tout lui devient un fardeau, même le jeu. Sur ses lèvres, plus de rire. Pendant la récréation, alors que tous s'en donnent à cœur joie, lui se retire seul dans un coin pour songer et parfois pleurer. Il voit devant lui comme dans un miroir sa première jeunesse, ruinée par le vagabondage et le péché. Et il se demande comment rattraper tout ce temps perdu. Alors, le pauvre Michel fond en larmes désespérées. Mais Don Bosco veille sur ses enfants comme une maman. après avoir suivi la crise de Michel, il l'appelle un jour pour lui parler. Mon cher Michel, j'aimerais que tu me fasses un grand plaisir. Dis-te voir, je suis prêt à tout. J'aimerais que tu m'ouvres ton cœur, que tu m'expliques la raison de cette tristesse qui te tourmente depuis quelques jours. Oui, c'est vrai ce que vous dites, mais je suis désespéré et je ne sais que faire. Sur ces paroles, Michel éclate à nouveau en sanglots. Lorsque Michel est calmé, Don Bosco l'emmène dans son bureau. Là, il lui dit d'un ton plaisant : Comment ? C'est toi le général Michel Magon ? Le chef de toute la bande de Carmagnola ? Quel général tu fais ? Tu ne trouves même plus tes mots pour dire ce qui tourmente ton âme. Je voudrais bien, mais je ne sais pas par quel bout commencer. Je n'arrive pas à m'exprimer. Dis-moi un seul mot. Le reste, je le dirai moi-même. J'ai la conscience embrouillée. Ça suffit. J'ai tout compris. J'avais besoin que tu me dises cela pour pouvoir te dire le reste. Puis, s'approchant de lui, Don Bosco poursuit sur un ton plein de douceur. Écoute, Michel. Prépare-toi simplement à une bonne confession. Là, tu exposeras le mal que tu as fait dans le passé et tout ce qui charge ta conscience. C'est bien difficile. Comment me rappeler tout ce qui m'est arrivé depuis tant d'années en arrière? Tu peux tout arranger et c'est très facile. Dis seulement à ton confesseur que tu as quelque chose à reprendre dans ta vie passée. Alors il t'interrogera et tu n'auras plus qu'à lui répondre oui ou non à toutes ces questions. Et c'est ainsi que la bonté paternelle de Don Bosco ouvre le cœur du jeune Magon. Michel consacre sa journée à se préparer en examinant soigneusement sa conscience. Il lui tient tellement à cœur de mettre en ordre son âme qu'il se confesse le soir même. Le Seigneur m'a longtemps attendu. Il est temps d'en finir avec le démon. Le cœur plein de repentir, il passe en revue sa vie entière avec ses péchés, petits et grands. Enfin, il reçoit l'absolution. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous pardonne, et moi, par son autorité, je vous absous de vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Puis, fondant de nouveau en larmes, Michel va prendre son repos. Mais son trop grand bonheur l'empêche de trouver le sommeil. Cette nuit agitée, pleine d'émoi, Magon la racontera plus tard. Je n'ai presque pas dormi. À peine assoupi, je voyais devant mes yeux l'enfer grand ouvert, rempli de démons. Je chassais cette affreuse vision en pensant que tous mes péchés avaient été pardonnés. Aussitôt, je vis une multitude d'anges qui me montraient le paradis en disant : Vois quel grand bonheur t'est réservé si tu persévères dans tes résolutions. Alors, je me suis senti si plein de joie que pour apaiser mon âme, je me suis agenouillé près du lit pour prier. Plusieurs fois, j'ai répété « Comme ils sont malheureux, ceux qui vivent dans le péché. S'ils goûtaient un seul instant la joie qu'on éprouve à vivre dans la grâce de Dieu, ils iraient tous se confesser. Ils iraient vite mettre fin aux remords de leur conscience pour jouir de la paix du cœur. Maudit péché, quel terrible fléau tu es pour ceux qui te laissent pénétrer dans leur âme. » Après avoir longuement remercié Dieu du pardon et de la paix retrouvée, Magon s'endort. Le lendemain, une nouvelle vie commence pour lui. Au milieu de la messe, c'est le moment de la rencontre avec Jésus. Du fond de son cœur, Michel renouvelle ses promesses. « Mon Dieu, à l'avenir, je ne veux plus jamais vous offenser. Je veux au contraire vous aimer de toutes les forces de mon âme. Seigneur Jésus, faites-moi la grâce de vivre et de mourir dans votre saint amour. » À partir de ce jour, la paix et la joie envahissent le cœur de Michel Magon. Dans la vaste cour de la maison, il joue avec un enthousiasme nouveau, entraînant tout le monde dans son tourbillon. Bientôt, il passe maître dans tous les jeux. Plus que jamais, Michel devient l'âme de la récréation, le général de la joie. Mais il est plus heureux encore d'assister à la messe, de prier le chapelet, alors qu'avant tout cela lui répugnait. Sa joie est si grande qu'il veut l'exprimer au dehors. Il apprend la musique et se joint à la chorale pour chanter les cantiques divins. Entraîné par sa voix claire et agréable, tous chantent d'un seul cœur les louanges du Seigneur. En même temps, Michel écrit sur un petit billet « Mon Dieu, faites que ma langue se dessèche plutôt que de dire un seul mot qui vous déplaise. » Peu à peu, la conduite de Magon devient en tout point exemplaire. Dès que sonne le signal de l'étude, il quitte tout pour se rendre à son devoir. Attentif en classe, il fait de grands progrès. Son secret, le voici. Il ne gaspille pas son temps dans les choses inutiles. Celui qui perd une minute, perd un trésor, répète-t-il souvent. Un jour, le professeur lui demande de réciter un poème latin dicté la veille. « J'en suis peu capable, » répond Michel avec modestie. Mais il s'en tire si bien qu'il est applaudi par ses camarades émerveillés. Mais le grand moyen de la sainteté, c'est la dévotion à la Vierge Immaculée. Et cela, Don Bosco le rappelle souvent. Mets-toi avec une confiance d'enfant sous la protection de Marie. Elle est ta défense contre les assauts que le démon livre à ton âme. Michel recourt à elle dans toutes les difficultés. En l'honneur de Marie, il promet de rester toujours pur et chaste. Je sens en moi une ferme volonté de me donner tout entier à Marie. Si je me consacre à elle, elle m'aidera à tenir ma promesse. Dès ce jour, il s'impose de ne jamais rien faire ou dire qui blesse tant soit peu la pureté. Or, le grand ennemi de la vertu, c'est la paresse. C'est pourquoi Don Bosco ne cesse d'encourager les enfants au travail par son exemple et par sa parole. Travaillez, étudiez, mais ne restez jamais sans rien faire. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Au contraire, mettez toutes vos énergies au service de Dieu et du prochain. Fort de cette leçon, Michel ne laisse échapper aucun instant sans faire tout ce que ses forces lui permettent. Ainsi, grâce à son ardeur au travail, il arrive à faire en une seule année 2 classes de latin. Au travail, Michel joint la piété. Il va souvent prier devant le Saint-Sacrement. Il a entendu Don Bosco dire un jour « Mes enfants, soyez toujours fidèles à la prière. Jésus nous demande de prier sans jamais nous lasser. Oui, prier pour être fort et ne pas tomber dans la tentation. » Il est tellement recueilli à l'église, plongé en Dieu, qu'il devient insensible à tout ce qui l'environne. « Ça ne t'ennuie pas de passer tant de temps à la prière ?» lui demande un jour un camarade. « Tu sais, j'ai très peur de retomber dans le péché. Alors je viens supplier Jésus Eucharistie de me donner la force pour persévérer dans sa grâce. » Mais le moyen le plus sûr de rester éloigné du péché, c'est la confession et la communion fréquente. C'est pourquoi Don Bosco exhorte ses enfants à recevoir souvent ces 2 sacrements. Rappelez-vous que le prêtre est un père qui désire ardemment votre bien et cherche à éloigner de vous tout le mal. C'est l'ami de votre âme. Ne lui taisez jamais un péché en confession. La miséricorde de Dieu est bien plus grande que toutes nos fautes. Et on voit le jeune Magon, patienté, immobile, à genoux, parfois plusieurs heures, pour laver son âme dans le précieux sang de Jésus. Tout en guérissant le péché, Don Bosco cherche plus encore à le prévenir. Fuyez les mauvais camarades, car ils vous portent au mal par leur scandale. Choisissez-vous au contraire de bons amis qui vous entraînent par leur exemple. L'influence néfaste des mauvais camarades, Michel en a fait l'expérience dans sa vie passée. Maintenant, il se lie d'amitié avec les meilleurs garçons dont il s'efforce d'imiter les vertus. Et quand un ancien le corrige, il répond humblement: si vous aviez été mes amis autrefois, je n'aurais pas pris ces mauvaises habitudes dont je n'arrive pas à me débarrasser. Mais le plus souvent, c'est Magon qui s'ingénie à éloigner du mal ses compagnons. Un jour, des camarades font des critiques et tiennent des mauvais propos. Michel met 2 doigts dans la bouche et siffle si violemment que tous en ont mal à la tête. « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fou ?» s'écrie l'un d'eux. Et lui de répondre tranquillement: « Si vous faites les fous en parlant mal, pourquoi n'en ferais-je pas autant pour vous empêcher de parler ?» Et les autres se regardent l'air médusé. Personne n'ose plus faire de mauvais esprit. Dans la suite, chacun surveille attentivement ses paroles en compagnie de Magon. Mais une réplique joyeuse ne suffit pas toujours pour détacher du mal. À Turin, il entend un voyou blasphémer le saint nom de Dieu. Sans penser au danger, il vole sur le blasphémateur et lui administre deux gifles retentissantes, en s'écriant « C'est ainsi que l'on traite le nom du Seigneur ?» Mais l'autre, plus grand que lui, n'accepte pas la leçon. Il s'élance furieux sur Magon. Gifles, coups de pied, coups de poing pleuvent, qui ne laissent ni à l'un ni à l'autre le temps de souffler. Heureusement, le supérieur accourt pour rétablir la paix. Michel a appris de Don Bosco qu'on ne peut aimer Dieu sans aimer le prochain. Soyons toujours bons et charitables envers les autres. C'est le moyen le plus efficace pour accroître en nous l'amour de Dieu. Magon profite de toutes les occasions pour rendre service. Il aide ses camarades de mille manières, mais sa prédilection va aux soins des malades. Une fois, pendant l'hiver, un garçon souffre cruellement d'engelure. Il ne peut plus rien faire avec ses mains. De grand cœur, Michel fait son lit, prend note de ses devoirs. Il finit même par un geste touchant de dévouement. « Tiens, prends mes gants, garde-les, je te les donne. Tu en as plus besoin que moi. » Au mois d'août, Don Bosco conduit ses garçons passer quelques jours à Murialdo, un hameau situé sur une colline ensoleillée. En chemin, les enfants discutent. Michel, pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pendant les vacances? Parce que là-bas, il y a les risques d'autrefois, les jeux de guerre, les camarades, qui m'entraînent à vivre comme je le faisais alors, et je ne veux plus que ça recommence. Alors, à ton avis, personne ne devrait plus retourner chez soi, ni revoir ses parents. Ce qui est certain, c'est que beaucoup partent chez eux avec des ailes d'ange et reviennent avec deux cornes sur la tête, comme de petits diables. Arrivés à Murialdo, les nuits sereines et scintillantes font sentir à Michel l'immensité de Dieu. Alors que les autres vont se coucher, lui contemple la lune par la fenêtre et soupire en pleurant. Don Bosco, le croyant malade, vient auprès de lui. Qu'as-tu, Michel? Tu n'es pas bien? Pardon, Don Bosco. Je pleure à regarder la lune. Depuis tant de siècles, elle éclaire les ténèbres de la nuit, sans jamais désobéir aux ordres du Créateur. Tandis que moi, je lui ai tant de fois désobéi, et je l'ai offensé de mille manières. Et Michel continue à pleurer, pendant que Don Bosco tente de le consoler. La fin de l'année 1858 arrive. Le dernier soir, Don Bosco rassemble les enfants pour remercier Dieu de tous les bienfaits reçus. Puis il les exhorte tous à passer dans la grâce de Dieu l'année nouvelle. Et tenant sa main sur la tête de Michel Magon, il ajoute « Parce que ce sera peut-être pour l'un d'entre vous la dernière de sa vie. » « J'ai compris, » dit Michel plein d'effroi. « C'est moi qui dois me préparer pour l'éternité. »« C'est bien, je me tiendrai prêt. » Ces mots sont accueillis par des rires, mais Magon ne les oublie pas. La vie continue pour Michel. Son allégresse au jeu, sa bonne humeur en classe n'ont pas changé. Pourtant, Lorsqu'il se retrouve seul, il reste pensif. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Et si je mourrais cette nuit, est-ce que je serais sauvé? Au jugement, mon âme sera seule avec Dieu. Jésus nous a dit, soyez prêts, parce que vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. C'est donc toute la vie qu'il faut se préparer à la mort, par des bonnes œuvres. Malgré ses graves réflexions, Michel garde son entrain et sa joie habituelle. Mais quelques jours après, le mercredi 19 janvier, il ressent des douleurs à l'estomac. Le lendemain, il se sent abattu. Sa respiration devient même pénible. Le docteur lui prescrit divers remèdes et lui ordonne le repos. Assis dans un fauteuil, Michel, le roi de la récréation, regarde par la fenêtre, le cœur plein de nostalgie. Il voit au loin dans la cour ses camarades jouer sans lui. Sa mère, qui se trouve ce jour-là à Turin, vient le voir. Jusque-là, son état ne présente pas d'inquiétude. Le jour suivant, soudain, son état s'aggrave. Il tousse et ses crachats sont teintés de sang. Le médecin a rappelé d'urgence l'ausculte. Sa maladie change d'aspect et devient très sérieuse. Un flux de sang se porte sur la poitrine et je ne sais si nous y trouverons remède. Don Bosco, qui veille à son chevet, lui demande « Michel, si le bon Dieu te donnait le choix entre guérir et aller au paradis, que choisirais-tu ? Qui serait assez fou pour ne pas choisir le paradis ? C'est bien. Disons tous ensemble, qu'en toute chose, dans la vie et dans la mort, soit accomplie la sainte volonté de Dieu. » Saignée, ventouse, médicaments, tout est tenté pour détourner le flux de sang brutal qui menace de lui couper le souffle. Rien n'y fait. Si bien qu'à 9h du soir, Michel demande à recevoir la Sainte Communion en viatique avant de mourir. Et se tournant vers Don Bosco, il lui dit « Recommandez-moi aux prières de mes camarades qu'ils prient pour que Jésus Eucharistie soit vraiment mon viatique, mon compagnon vers l'éternité. » Puis, avec une foi vive et un grand désir, Michel reçoit Jésus, qu'il espère bientôt posséder éternellement dans le ciel. Maintenant, il est 10h du soir et le mal se fait toujours plus menaçant. Don Bosco, je vais mourir, aidez-moi. On lui administre le sacrement de l'extrême-onction. À l'onction de la bouche et des mains, Michel fait cette prière. Mon Dieu, pardonnez tous les péchés que j'ai commis avec cette bouche, tous les coups de poing que j'ai donnés avec ces mains. Je m'en repens de tout mon cœur. Et il prend part aux prières avec une foi si profonde que les assistants sont émus jusqu'aux larmes. Après la cérémonie, il dit à Don Bosco « Ma maman, dites-lui que je l'aime, qu'elle me pardonne toutes les peines que je lui ai faites dans ma vie. Et que dois-je dire de ta part à tes camarades? Qu'ils veillent toujours à faire de bonnes confessions. » Michel, dis-moi, reprend Don Bosco, de tout ce que tu as fait dans ta vie, qu'est-ce qui te procure en ce moment la plus grande consolation? C'est tout l'amour que j'ai eu pour la Vierge Marie. C'est là ma plus grande consolation. Se tournant vers la statue de Notre-Dame Auxiliatrice, qui veille à son cheval, il poursuit. Ô Marie, combien vos fidèles serviteurs sont heureux à l'heure de la mort. Non, au jugement, je ne serai pas seul. Vous serez là aussi pour m'aider. Maintenant, je n'ai plus rien à craindre. Je pars de ce monde avec Jésus et Marie. À ces mots, Don Bosco dit d'une voix attendrie, quand tu verras la Vierge Marie au paradis, prie-la de nous prendre tous sous sa puissante protection, afin qu'aucun de nous ne vienne à se perdre. Dans ces derniers instants, le visage de Magon rayonne de la grâce céleste. Plusieurs fois, il a demandé à Dieu de lui faire accomplir son purgatoire sur la terre, afin d'aller au ciel sitôt après sa mort. Cette pensée lui permet d'endurer ses souffrances avec une grande joie. À 11h du soir, il dit, « Don Bosco, dites à mes camarades que je les attends tous au paradis. » Puis, serrant le crucifix entre ses mains, il l'embrasse 3 fois et prononce ses dernières paroles. Jésus, Marie, Joseph, je remets mon âme entre vos mains. Plissant ensuite les lèvres, comme s'il voulait sourire, il rend son dernier soupir. Michel est à la fleur de l'âge. Il n'a que 13 ans. Et voici qu'un joyeux sommeil transporte son âme des peines de la vie au bonheur éternel du paradis. Don Bosco, laissant libre cours aux sentiments qui débordent de son cœur, s'écrie d'une voix attendrie. Que ne pouvons-nous prendre ta place, Michel bien-aimé? En cet instant, ton âme jugée par Dieu va conduite par la Vierge Marie, s'enivrer de délices dans l'immense gloire des cieux. Offre pour nous, ô Dieu Tout-Puissant, tes ardentes prières. Fais qu'ils nous reçoivent tous un jour avec toi, dans la céleste patrie, pour l'éternité.